les rayons et les ondes.
Je vous propose
chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux
qui font le territoire.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes avec Aurélie Jouet, animatrice du SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Cée et des côtiers Grand-Villets. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors, vous travaillez pour le territoire, justement, mais vous, personnellement, quel est votre lien avec le territoire ?
Alors, moi, je suis née dans le Sud-Manche. J'y ai grandi jusqu'au lycée. Ensuite, je suis partie faire mes études à Caen. Je suis partie à l'étranger. Je suis partie en Angleterre. Je suis partie à Montpellier. Et finalement, j'y suis revenue.
Quelle formation vous a amené à ce travail sur l'eau ? Vous avez un intérêt particulier pour l'eau ?
Alors c'est vrai que moi j'ai toujours grandi à la campagne et j'ai fait des études dans le domaine de l'environnement. J'ai commencé par la biologie et c'est vrai que ce lien entre l'environnement et l'agriculture sur le territoire, enfin c'est l'agriculture qui fait nos paysages c'est quelque chose qui m'a toujours eu à cœur de faire en sorte que ce lien perdure. Et donc j'ai fait un DBSS en aménagement du territoire. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir, à travailler à l'échelle du bassin versant sur la gestion de l'eau et du lien entre l'eau, l'aménagement du territoire, l'agriculture et ses habitants.
Et c'est une question qui est devenue... Enfin, vous, quand vous avez commencé, c'était peut-être une question moins connue, moins courante que maintenant. Ça se pose de plus en plus, non ?
Quand j'ai commencé à être animatrice du SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, on n'était pas très très nombreux. Et c'est une politique qui découle de la loi sur l'eau de 1992 et qui a vraiment pris son ampleur dans les années 2000. Et finalement, le SAGE de la Cée des côtiers Grand-Villets, c'est un peu le dernier sur le territoire, puisqu'il y a d'autres SAGE qui se sont développés. Et avant d'arriver sur le bassin de la Cée, j'ai travaillé sur le bassin de la Cée-Lune. Donc je suis arrivée pour l'élaboration du SAGE de la Cée-Lune.
Ah oui, donc en fait, il a été créé après...
Oui.
Ils n'ont pas été créés tous ensemble
non.
En même temps.
En fait, ça dépend de l'organisation et des volontés politiques de mettre en place un outil pour la gestion de l'eau.
Alors justement, puisque vous parlez de politique, le territoire du Sud-Manche, alors au sens un peu large, il est connu pour être lié à trois fleuves qui finissent dans la baie du Mont-Saint-Michel, la Cée, la Cée-Lune et le Couesnon. Et je crois qu'il y a un rapport avec les sages, justement, les schémas. Alors expliquez-nous justement comment ça s'est fait, ces limites, pourquoi ces limites ?
Alors les sages, ils s'appuient sur les limites hydrographiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des limites administratives, ce sont les limites du bassin versant. Le bassin versant, c'est la surface sur laquelle chaque goutte d'eau va couler dans un petit ruisseau, plus une petite rivière, pour arriver dans un fleuve et finir à la mer. Donc ce sont des surfaces qui sont séparées par des lignes de crête. Donc le bassin du versant de la Cée-Lune est séparé de celui de la Cée par la route d'Avranches-Mortain. Par exemple, donc il y a des repères assez faciles à avoir géographiquement. Voilà, c'est les points hauts sont les limites entre les bassins versants.
Donc on peut dire que c'est Grandville jusqu'à Grandville-Avranches. Voilà, jusqu'à Mortain, alors ça va.
Donc le bassin de la Cée, il va de la Cée et des côtiers Grand-Villet. Mmh. Il va de Grand-Ville, prend tous les petits côtiers et le bassin de la Cée jusqu'à depuis sa source sur Deval. Et les autres sages, il y a le sage de la Cée-Lune qui prend une partie de ses sources en Ille-et-Vilaine et en Mayenne, le sage du Couesnon qui est à cheval sur la Manche et l'Ille-et-Vilaine, et puis à la marge on a d'autres sages puisque sur le Mortainais on a des petits cours d'eau qui partent vers le bassin de la Mayenne ou le bassin de l'Orne ou le bassin de la Vire ou le bassin de la Sienne. Donc on est vraiment au carrefour des eaux, quand on voit d'ailleurs le château d'eau de Chaulieu, c'est vraiment le sommet de la Manche d'ailleurs.
Donc en fait, on voit que là, il y a des frontières géographiques et hydrauliques qui ne sont pas les frontières politiques,
complètement
administratives.
Et c'est ça qui est un petit peu compliqué dans cette opération, c'est qu'on doit faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, parce que les réseaux s'organisent à l'échelle des communes, puis des EPCI, et on dépasse les EPCI, mais on ne prend pas non plus tous les EPCI. Donc c'est toujours une cote un petit peu ajustée à chaque fois pour travailler vraiment à l'échelle du bassin versant.
Ouais, c'est complexe et en même temps c'est peut-être intéressant justement d'échanger avec des gens d'autres territoires. Enfin,
tout l'intérêt du SAGE, c'est qu'il est, il est élaboré par la CLÉ. Donc la CLÉ, c'est la Commission locale de l'eau. Donc cette CLÉ, c'est le Parlement de l'eau du bassin versant en fait. Donc elle représente tous les acteurs du territoire. Donc ça représente les collectivités, donc les communes, les côtés de communes, les syndicats. Donc pour la moitié des membres de la CLÉ, pour un quart les représentants des usagers, donc on a les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, des associations environnement, les associations de pêche, les associations de consommateurs, les propriétaires fonciers, et pour le dernier quart les représentants des services de l'État, donc les services départementaux ou régionaux, l'agence de l'eau, l'OFB, l'agence régionale de santé, tous ceux qui ont maille à partir sur le domaine de l'eau.
Et donc il y a une CLÉ par SAGE ou c'est une CLÉ regroupe plusieurs SAGE?
Chaque SAGE a sa CLÉ.
D'accord.
Parce que chaque territoire est différent.
D'accord. Donc la CLÉ, en fait, c'est les personnes qui s'occupent du SAGE. En fait,
voilà, c'est une commission. Voilà, c'est un regroupement de personnes.
Ouais, d'accord. Bah, c'est important parce que c'est beaucoup de termes. Et puis là, justement, vous allez communiquer. C'est important que les gens comprennent les mots. Et alors, il y a un dernier sigle qu'on ne peut pas prononcer comme SAGE. C'est plus difficile. Il faut donner juste les lettres. C'est la SMPGA.
Le SMPGA. Le syndicat. De mutualisation pour l'eau potable du Grand-Villet et de l'Avranchin. Donc le SMPGA, en fait, est la structure porteuse pour l'élaboration du SAGE, parce que la CLÉ, c'est une commission, elle n'a pas d'existence juridique. Donc elle a besoin d'une structure pour financer les études, pour financer l'animation, pour percevoir les subventions. Donc c'est un petit peu la structure qui permet à la CLÉ de vivre, en fait. Et donc ce SMPGA, c'est un producteur d'eau, donc qui est plutôt sur la partie ouest du bassin versant, mais qui associe les autres producteurs du bassin versant, donc tous les producteurs d'eau, le SDO, le syndicat de Saint-Poix, le syndicat de la EPNL, la commune de la EPNL, participent à la compétence SAGE qu'a pris le SMPGA pour pouvoir vraiment être sur l'ensemble du bassin versant de la C et des côtiers Grand-Villet.
Voilà, donc là, nous, on se voit, on est sur le lieu, donc à Tirepied, c'est le siège de...
C'est l'antenne sud du SMPGA. Donc le siège, il est à Saint-Père, mais comme il y a une partie du territoire qui est plus partie sur le sud, donc il y a une antenne ici pour accueillir la clientèle, en fait.
D'accord, alors vous accueillez qui, justement?
Eh bien, tous les habitants qui veulent ouvrir un compteur, ouvrir l'eau, fermer l'eau... Donc c'est tout. Pour avoir de l'eau, il faut avoir un contrat avec le distributeur.
Pourquoi faut-il un SAGE et pourquoi ces organisations? Donc vous avez rappelé que ça datait de 1992. Et pourquoi on a eu l'idée de créer ça?
Alors le SAGE, c'est un outil pour organiser la gestion de l'eau sur un bassin versant. Donc les premiers SAGE, ils se sont construits sur des territoires où il y avait des problèmes. Mm. Donc... si on a mis aussi longtemps à démarrer le SAGE de la C côté Grand-Villet, c'est que finalement, la situation ne semblait pas alarmante. Et puis on se dit, oh, ça peut attendre. Et puis, il a fallu aussi trouver l'organisation pour mettre en place la structure porteuse du SAGE aussi. C'est qu'il y a eu des atermoiements pendant de nombreuses années pour arriver à ce que ce soit le SMPGA qui décide de prendre, de s'organiser pour pouvoir assumer cette compétence que la CLÉ lui a confiée, en fait. Donc le SAGE, c'est un outil sur notre territoire qui va plutôt être en anticipation de problèmes à venir. Parce que jusqu'à présent, on va dire que ça va. Et là où on s'inquiète un peu, c'est est-ce que ça va durer? Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un SAGE, parce que c'est quand même mieux de commencer à s'organiser avant d'être dans le dur des problèmes.
Il y a eu une réunion, c'était la salle de RL, c'était sur l'eau justement, et c'était organisé par le SMPGA.
Oui, alors Le SMPGA est engagé depuis longtemps sur la gestion de la ressource en eau et de l'évolution qui se profile avec le dérèglement climatique. Et l'objet était de... Je crois que c'était Granville-Terre-Mer aussi qui est très engagé là-dessus. Sur le sensibiliser le public à la gestion de l'eau, en particulier dans une région où jusqu'à présent on n'en a pas manqué où on n'a pas pris les habitudes encore de rationnement, de partage de l'eau en fait.
Et en fait, je me souviens, ça m'avait marqué, il nous avait expliqué qu'il y a eu un été où on était, parce qu'il y a plusieurs phases d'alerte. Et qu'il y a eu un été où on était à quelques jours de passer à une alerte où on distribuait de l'eau, on coupait l'eau, enfin on empêchait tout, on limitait l'eau, on distribuait des bouteilles d'eau. Et il s'est mis à pleuvoir juste à ce moment-là, au mois d'août. Mais donc c'est là qu'on a commencé à s'alerter, à se dire qu'on commençait à évoluer.
Oui, 2022, c'était l'année où on a vraiment pris conscience de la fragilité de notre système d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable, parce qu'on a, la distribution d'eau est relativement sécurisée, il y a des interconnexions entre les différentes structures, de façon à ce que s'il y en a un qui a un problème, on puisse l'alimenter par un autre secteur, etc. Sauf que là, quand il ne pleut pas pendant des mois, personne n'a d'eau à partager avec personne. Donc on était vraiment aux limites de ce qu'on était en capacité de faire. Donc il faut vraiment maintenant se poser la question de à quoi est utilisée notre eau potable. Et c'est vraiment ça que dans le SAGE, on veut, c'est anticiper les situations pour que ce ne soit pas la crise et qu'on soit déjà prêt, organisé et qu'on n'arrive pas jusqu'à ce stade où on n'a plus d'eau à distribuer, on en arrive à distribuer de l'eau en bouteille.
Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est intéressant à la campagne, c'est cette union entre différentes choses et l'agriculture qui est importante, etc. Mais il ne faut pas que les gens se retrouvent en rivalité entre justement l'eau pour l'agriculture, l'eau pour boire, l'eau pour autre chose, le plaisir, ou je ne sais pas, le loisir. Enfin, c'est quoi les différents d'ailleurs
Alors, c'est tout l'intérêt de la démarche SAGE, c'est qu'on commence par faire... un état des lieux, on regarde quelle est la situation actuelle. C'est un peu la photo du territoire. Après, on pose le diagnostic. Ah, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, on regarde le passé, quel est le lien entre l'évolution de l'occupation du sol, l'évolution de l'agriculture, l'évolution de la population et l'évolution de la qualité d'eau, de la qualité des milieux.
Parce qu'il y a la quantité et il y a la qualité aussi.
Tout à fait, c'est-à-dire que... globalement, si je peux faire juste un tout petit résumé, la situation elle est relativement bonne sur le territoire parce qu'on est un certain équilibre finalement entre l'organisation agricole du territoire qui est tournée plutôt vers l'élevage, dans un territoire qui est favorable à la pousse de l'herbe où on a encore pas mal d'élevage à l'herbe. Donc ce qui fait qu'on a un territoire qui est encore vert, très bocager, par rapport à d'autres territoires qui le sont moins, et finalement une qualité d'eau qui est relativement correcte sur les nitrates, sur le phosphore, ça va. C'est juste que, est-ce que ça va durer? Parce que on voit l'évolution, donc on a regardé aussi l'évolution de la population, l'évolution de l'agriculture. Si on regarde le passé et qu'on essaye de prolonger ces tendances du passé à faire un scénario tendanciel, là, on commence à se dire « ça va peut-être pas passer » parce qu'on a une population qui grandit plutôt sur la façade littorale et relativement moins sur la partie, on va dire, terrestre, sur la partie du bassin de la C, alors que c'est là que sont nos ressources, en fait. Il faut dire qu'il pleut deux fois plus à Sourdeval qu'il ne pleut à Granville. Donc forcément, on a des pluviométries qui sont différentes, qui amènent des agricultures qui sont différentes, des paysages qui sont différents et des usages qui sont différents. Et donc on voit aussi que l'agriculture, elle évolue de son côté. Donc on voit bien l'agrandissement des élevages, on voit qu'il y a de moins en moins d'éleveurs en fait. Et ce renouvellement des générations qui a du mal à se faire, il nous interroge sur « mais comment ça va se passer alors ?» Si on a moins d'éleveurs, on aura plus de cultures. Si on a plus de cultures, on aura moins de haies. Quel impact ça va avoir sur nos ressources? Et on craint qu'on aille vers une dégradation à la fois en termes de qualité, avec plus de matière en suspension, peut-être plus de produits phyto, et en termes de quantité, c'est-à-dire qu'on aura des sols qui retiendront moins l'eau.
Et ça, au niveau administratif et même associatif, je sais qu'il y a des associations. Les haies, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Hein. C'est...
Alors, il faut bien voir que notre paysage, il dépend des... Allez, les agriculteurs, c'est quoi ? 5-6% de la population, et c'est eux qui fabriquent tout notre paysage, en fait. Donc,
Et qui nous nourrissent aussi, essentiellement.
Essentiellement, qui nous nourrissent. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu épineux.
Oui.
Parce que la haie, tout le monde y est très attaché, mais l'agriculteur, pas forcément.
Et encore, nous, on a gardé un petit peu par rapport à des paysages avec le remembrement. Là, il y a un livre extraordinaire là, des champs de bataille là, sur le remembrement. On découvre, c'est assez terrible, en Bretagne notamment. Mais chez nous, j'ai l'impression qu'on a été, même s'il y en a eu du remembrement, mais on a été un peu protégés quand même, on a gardé un peu de bocage.
Oui, il y en a eu, mais... pas tant que ça par ici, et c'est ce qui fait que quand on est dans le secteur du Mortainais, on a l'impression d'être je sais pas où on est d'ailleurs, mais c'est très fermé, c'est très vert, il y a des chemins creux, il y a quelque chose qui a une qualité paysagère qu'on n'a pas sur le secteur de Pont-Orson, où les secteurs sont beaucoup plus plats, plus ouverts. Ça donne des paysages qui sont très 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 différents. Et oui, c'est l'agriculture c'est de l'agriculture dont dépendent de nos paysages. Donc, quand on est habitant, on est très attaché à la haie. Quand on est agriculteur, on aimerait bien en tirer un bénéfice, parce qu'en plus, on n'a pas le temps de s'en occuper de la haie. Et en plus, quand on a mécanisé les cultures, on peut pas se permettre d'avoir des champs avec des coins partout. C'est vrai, c'est plus facile d'avoir des champs rectangulaires pour pouvoir travailler le sol.
Et puis vous parliez de l'aménagement du territoire qui est différent, enfin de l'habitation. Et puis il y a aussi, en lisant d'ailleurs, vous avez fait il y a un très beau dossier, c'est vous qui l'avez créé, de concertation pour donner. Donc on va parler des réunions qui vont être faites. Et dans ce dossier, vous montrez bien que c'est au moment, enfin c'est vrai que si on réfléchit, c'est un peu évident, mais c'est au moment où il y a le plus de monde l'été qu'il y a moins d'eau aussi.
Alors, il faut savoir que l'eau qu'on utilise pour fabriquer l'eau potable, elle vient essentiellement de cours d'eau, donc ce qu'on appelle les eaux de surface. Donc principalement, c'est le Tarn, la Brèze, le Glanon. Et ces cours d'eau, en fait, comme tous les cours d'eau, il y a moins d'eau l'été puisqu'il pleut moins. Donc on a une ressource qui diminue l'été au moment où on en a le plus besoin, au moment où il fait le plus chaud, au moment où les touristes viennent et au moment où les animaux qui boivent ont soif. Donc ça fait beaucoup de tension sur la ressource.
Parce que les animaux, oui, comme nous, en fait, parce qu'ils ont chaud.
Ils ont chaud, ils ont soif. Donc le bétail, c'est autant d'eau que toute la population du bassin versant. Donc voilà,
à un moment... Et la population, elle se multiplie complètement entre l'hiver et l'été, non ?
C'est surtout sur le littoral qu'on voit cette pointe de consommation, en fait. On voit vraiment qu'il y a plus de demandes. Et cette période d'été, en fait, l'été, ce n'est plus que l'été. L'été, ça commence au mois de juin, ça finit au mois de septembre, ça commence les grands week-ends du mois de mai. En fait, on n'a pas plus de population, mais on a une plus longue occupation des résidences secondaires. Et donc, ça nous fait des moments où on a besoin de plus d'eau, en fait.
Donc, vous disiez, c'est anticiper pour essayer de voir les besoins et comment on peut gérer ça et pour pas se battre sur les... Et arriver dans des situations...
Alors, il y a l'aspect quantitatif, effectivement. C'est on a besoin de mieux connaître nos ressources, parce qu'on dit qu'on a peu de ressources souterraines, mais malgré tout, on en a. Je veux dire, tous les agriculteurs, ils ont un forage, donc ils prennent dans les eaux souterraines, mais qu'on connaît mal. On connaît mal leurs besoins. On connaît très bien ce qui touche à l'eau potable, parce que c'est de l'information publique, mais tous les autres usagers, on les connaît relativement mal. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que toute cette eau douce, elle finit dans la mer, et on a en face des activités conchylicoles qui ont besoin d'eau douce aussi l'été. Et puis, il suffit pas d'avoir de l'eau, il faut qu'elle soit de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on a des baignades aussi qui ont besoin d'une eau de qualité. On a des habitats, on a un territoire qui est reconnu pour la qualité patrimoniale des paysages, certes, mais aussi de toutes les espèces de poissons migrateurs. On a des saumons, des lamproies, des anguilles qui fréquentent nos cours d'eau, donc qui grandissent, il y a des échanges entre la mer et la terre.
On dit que les saumons diminuent, c'est vrai là, c'est...
Oui, là, les populations de saumons sont en train de s'effondrer, c'est pour ça que cette année la pêche est fermée.
Fermée pour les saumons.
Oui. Et donc les saumons qui se reproduisent dans nos rivières, on fait le maximum pour faciliter et pour maximiser leur reproduction. Donc dans les cours d'eau, on essaye de s'assurer que les frayères ne sont pas colmatées par toutes les matières en suspension qui sont liées à l'érosion du sol. Donc il y a un lien entre l'agriculture, l'érosion, les saumons, les poissons, les rivières, tout est lié. Et donc on a besoin de cette qualité aussi dans nos ressources, nos petits captages souterrains. Donc on a aussi besoin que l'eau qui nous approvisionne soit de bonne qualité pour nous et pour tous les petits habitants
plus
de l'eau.
C'est joli votre expression, les petits habitants de l'eau. Donc on prend plus en compte aussi la biodiversité, pas que l'humain. Enfin, voilà, on sait que maintenant on sait qu'on doit vivre avec tout le monde et que c'est mieux de...
On doit vivre avec eux, mais on a besoin d'eux pour vivre, surtout.
Aussi, oui.
C'est-à-dire que toutes les zones humides, aussi, on veut les préserver. C'est pas juste pour le plaisir de préserver les libellules.
Ouais.
C'est parce que c'est les zones humides, elles servent d'éponge. C'est-à-dire qu'elles stockent l'eau l'hiver pour redonner l'eau au cours d'eau l'été. Elles épurent une partie des eaux qui coulent du bassin versant avant d'aller jusqu'au cours d'eau. Si on veut protéger les haies, c'est parce qu'elles favorisent l'infiltration pour que l'eau aille s'infiltrer dans le sol pour que... C'est notre réservoir, le sol. Hein. C'est là que doit se stocker l'eau toute l'année pour qu'on en ait jusqu'en été. Donc,
Et absorber, justement, parce que ça aussi, on a des phénomènes de plus en plus d'inondations, de crues énormes. Enfin de...
Et effectivement, j'ai pas parlé du premier facteur d'influence du territoire, c'est le changement climatique.
Ouais.
Le dérèglement. On peut même parler de dérèglement climatique.
Ouais.
On sait qu'on aura... peut-être autant d'eau, mais qu'il ne pleuvra pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il pleuvra a priori plutôt plus l'hiver et moins l'été. Et quand il va pleuvoir en grosse quantité. Enfin, on le voit déjà que quand il y a des orages, c'est un peu catastrophique. Bon, on aura toujours des orages, mais peut-être plus fréquents en fait.
Donc ça relie ce que vous disiez au départ, c'est aussi l'aménagement du territoire. Il va falloir aménager pour éviter ces routes parfois qui ruissellent, moi j'ai eu ça près de chez moi,
oui.
À Ronton, là, il y a des routes qui,
ouais,
une route qui ruissellaient complètement, là, c'était impressionnant. Ouais.
C'est des épisodes qui sont très localisés.
Ouais.
Et là, on le voit en zone agricole, mais c'est également vrai en zone urbaine. C'est-à-dire qu'on a artificialisé les sols pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et ce qui fait que maintenant, on a des bassins versants qui sont très réactifs. C'est dès qu'il y a une pluie, comme tout est imperméabilisé, tout finit dans le tuyau, puis dans le cours d'eau. Et à l'aval du bassin versant, on se retrouve à déborder. On voit très bien, par exemple...
Et ça n'a pas bénéficié avant, quoi. En amont, ça aurait pu bénéficier en passant dans la terre, dans la nature, ouais.
Regardez un tout petit bassin versant qui est le bassin versant de la Pivette. La plupart de son bassin versant, c'est les zones commerciales autour du Leclerc, par exemple.
Oui, on connaît grâce au yaourt, Pivette et Palorette. Ouais,
mais oui, il y a ce petit cours d'eau, il prend effectivement ses sources dans les zones agricoles. Et puis, il reçoit toutes les eaux de la zone, de l'extension d'Avranches, de Saint-Martin-des-Champs, de Saint-Senier-sous-Avranches. Et tout ça, tous ces écoulements, ils se concentrent et ça fait un cours d'eau, la Pivette, qui finit par déborder jusqu'à l'hôpital, en fait. Donc, on a un gros travail à faire aussi de désimperméabilisation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte maintenant que la goutte de pluie, quand elle tombe, il faut l'infiltrer vers le sol le plus rapidement possible. Il faut que les parkings... On commence à voir des parkings un petit peu différents, un peu plus verts, un peu plus perméables. Et ça, ça, c'est quelque chose qui va falloir se développer.
Vous dites ça, j'y pense, à Sartilly, c'est ce qui a été fait
en fait. Oui, la rénovation du bourg de Sartilly.
Oui, le parking, il y a de l'herbe qui pousse entre les grillages et les pierres.
Et puis il y a des choses auxquelles on n'avait pas réfléchi avant. Il faut maintenant réfléchir nos aménagements de bourg différemment. On ne peut plus faire, comme on faisait en 1981, une route avec un trottoir, avec une bordure en granit, un trottoir tout propre qui va jusqu'au pied du mur. Ça, ce n'est plus possible. Et il faut maintenant réfléchir à l'inverse. Et comment est-ce qu'on fait pour que l'eau qui roule sur la route, et bien finalement, les escouasse-berres, ils soient plutôt en creux pour que ça aille s'infiltrer dans les zones où on a de la végétation, parce qu'on a besoin aussi de cette végétation pour infiltrer l'eau, mais aussi pour faire de la verdure. Les plantes, quand elles absorbent de l'eau, en fait, après, elles l'évaporent. Donc, elles contribuent au confort thermique dans les villes. On a besoin de la nature en ville beaucoup plus que...
Et ça limite le réchauffement climatique aussi, les arbres.
C'est ça. Ouais. Ça contribue à la gestion de l'eau et à la gestion de la température. On voit bien ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Maintenant, il faut faire des îlots de fraîcheur pour pouvoir que ce soit vivable en ville.
On parle d'arbres éponges. Il y a même des villes où ils font ça. Ils font venir l'eau. On éponge.
Ils appellent ça les arbres de pluie. En fait, on fait des tranchées drainantes. Plutôt que les arbres ils soient corsetés avec du bitume jusqu'au pied, on rouvre toute la route. On fait une tranchée pour que le sol puisse recevoir les eaux pluviales. Donc, ça permet d'arroser les arbres et il réinfiltre et il évapore.
Donc on voit bien que en fait vous c'est très intéressant parce que c'est un tout, c'est à la fois étudier, mieux connaître et puis proposer des solutions, c'est ça.
Oui.
Et là donc justement on se voit parce que en plus, enfin ça faisait longtemps qu'on devait se voir, mais en plus vous organisez une consultation des citoyens pendant tout le mois donc vous avez commencé en avril et là en mai. Alors, et parlez-nous de ça. Pourquoi consulter les gens et qu'est-ce qu'on va leur demander ?
Alors, la concertation préalable, elle arrive à un moment où la commission locale de l'eau a établi une stratégie. Voilà, on a vu quelle était la situation actuelle. On a vu, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, on a déjà écrit une stratégie d'adaptation au changement climatique en 7 axes. Et ce qu'on souhaite, c'est que... s'assurer auprès du public qu'on va dans le bon sens, en fait. Est-ce que ce à quoi on a pensé, est-ce qu'on a pensé à tout ? Parce que peut-être on a oublié des choses, on a oublié des sujets. Est-ce que les idées auxquelles on pense, elles vous paraissent bonnes ou pas bonnes ? Et puis aussi, le SAGE, c'est un document, il faut bien le rappeler, qui peut avoir une portée réglementaire. C'est-à-dire que le SAGE, il est composé de 2 documents. Il s'impose particulièrement aux collectivités, donc à toutes les politiques publiques du territoire. Et il y a un règlement qui peut s'appliquer à tous les projets, donc à tout à chacun. Donc ce qui est important, c'est de bien doser le côté réglementaire du SAGE. C'est jusqu'où est-ce qu'on veut aller sur ce volet réglementaire. Qu'est-ce qu'on veut réglementer fortement, pas trop fortement ou pas du tout. Et qu'est-ce qu'on veut accompagner. Parce que voilà, on sait qu'on veut atteindre des objectifs, on veut s'assurer qu'on veut... On veut, par exemple, désimperméabiliser la ville, on veut infiltrer l'eau. Pour ça, est-ce qu'on veut utiliser un outil réglementaire ? C'est-à-dire qu'on impose, par exemple, à toute nouvelle construction d'avoir une récupération des eaux et un double réseau dans sa maison pour alimenter les toilettes, par exemple. Ou est-ce qu'on veut juste que ce soit inscrit dans le document d'urbanisme ? Et puis que le document d'urbanisme, il ajustera, il verra comment on peut décliner un peu cette règle. Et ça permet de doser ce curseur réglementaire. Réglementation, on peut aussi se dire jusqu'où est-ce qu'on va dans la réglementation des... Parce que les agriculteurs, ils nous disent « Ah ben oui, non mais nous, on a déjà 13 réglementations sur la haie. » Et en même temps, quand on discute avec les gens, on dit « Ah ben oui, mais tous les hivers, on en voit encore tomber des haies. » On n'a pas tous la même perception de c'est quoi la réglementation. Donc il faut aussi bien rappeler, pas faire de surréglementation, mais plutôt voir où sont les trous dans la raquette réglementaire.
peut-être déjà voir les règlements qui ne sont pas appliqués.
Voilà, parce qu'en fait, ouais, ça ne sert à rien de faire des...
C'est comme on dit sur les lois, on fait plein de lois, alors que parfois, il y a des lois qui ne sont pas appliquées.
En fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a déjà des règles, ça ne sert à rien d'en faire plus, mais peut-être se demander pourquoi elles ne sont pas déjà appliquées.
Ou de mieux les adapter un petit peu s'il y a des choses qui ne vont pas. Ouais.
Oui, et peut-être que ces règles, elles ont besoin d'être accompagnées, explicitées, pour être mises en œuvre.
Oui, informer les gens et en même temps tâter le terrain, voir un petit peu, voir leur retour, comment ils réagissent.
C'est ça, est-ce qu'on a bien la même perception du territoire, ce qu'on envisage de faire. Est-ce que ça paraît correct, adapté ou suffisant ou pas? Et ce qui va permettre à la commission locale de l'eau de pouvoir continuer à rédiger son document maintenant, puisqu'on souhaite que ce document, on puisse le rédiger d'ici la fin de l'année.
Alors justement, comment donner son avis alors et comment s'informer?
Alors on a mis en place un site internet pour pouvoir s'informer, et il y a un petit questionnaire, parce que c'est pas toujours facile, oui, sur quoi je vais donner mon avis, je sais pas, j'y connais rien, etc. Il y a un petit questionnaire qui est relativement simple à suivre.
Je l'ai fait, et c'est vrai qu'il est assez simple, et en fait ça explique bien, et on peut y répondre, même si on n'est pas un spécialiste de l'eau.
On n'a pas besoin des spécialistes. Les spécialistes, on leur a déjà parlé, normalement on n'est pas trop à côté de la plaque. Mais voilà, ce questionnaire, ça permet à chacun de répondre à des questions, à trier, classer, nous aider à mettre des priorités aussi, peut-être, parce qu'on ne pourra pas tout faire partout, ou pas tout de suite, il faudra qu'on programme dans le temps, donc ça peut être bien aussi de pouvoir s'assurer que ça répond.
Dans quel ordre on fait les choses. Ouais. Donc ça, c'est sur le www.sage-c-cotier-grandvillais.fr. Mais on tape ça, je sais, on tombe dessus. Donc il y a le dossier, justement, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez fait pendant 3 ans, hein, c'est ça? C'est un dossier.
Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille.
D'études, ouais. Et qui est consultable en mairie, pour ceux qui n'ont pas Internet. Voilà.
Tout
on
à fait.
On peut aussi aller en mairie. Et c'est là qu'on peut avoir accès au questionnaire.
Voilà.
Et puis sinon, donc il y a des réunions, c'est intéressant aussi de discuter en direct avec les gens.
Alors je suis, donc pour les gens qui sont, on a trois réunions grand public qui sont organisées, donc il y en a deux qui sont déjà passées, il en reste une, la prochaine qui sera à Julouville le 15 mai à 18h, donc j'invite tout le monde à venir s'informer, échanger, discuter.
C'est un jeudi 15 mai, oui, à Salle des Miels à Julouville.
Voilà. Et pour ceux qui sont loin de l'informatique, qui sont loin des réunions publiques, je suis sur les marchés de la côte encore, voilà, de Carole, Julouville, Saint-Père et Granville.
Alors j'ai regardé, en fait, vous avez commencé d'ailleurs pour les réunions aussi, Cuve et Tirepied, et puis sur Deval-Bressay, pour les marchés, vous avez commencé plutôt par la terre, et maintenant vous arrivez à la côte.
Hein, voilà.
Il y a un ordre géographique. Et donc, on peut donner je vais donner les dates, je les avais remarquées. Jeudi 8 mai, Carole. Donc, c'est sur les marchés, en fait, réguliers hein, de la semaine. Donc, le jeudi, c'est à Carole. Vendredi 9 mai, Julouville. Le samedi 10 mai, à Granville. Et le jeudi 15 mai, à Saint-Père. Ça sera le dernier marché. Hein.
C'est ça.
Et ça sera le jour, justement, de la réunion publique à Julouville.
Tout à fait. Et le questionnaire restera accessible jusqu'au 31 mai, qui est la date de fermeture officielle de la concertation.
Et alors, vos engagements, après, donc vous le disiez un petit peu, c'est de tenir compte, de faire un échéancier. Bon, évidemment, vous ne pourrez pas contenter tout le monde, mais au moins, vous pourrez vous adapter vraiment aux remarques des gens.
Alors, la Commission nationale du débat public nous accompagne aussi sur cette concertation. Donc, eux aussi feront un bilan de la concertation. Eux, leur travail, c'est de s'assurer qu'on a bien mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour aller chercher tout le public. Et derrière, donc, la commission locale de l'eau va répondre à toutes les interrogations. On ne va pas forcément répondre favorablement à tout, mais en tout cas, on doit expliquer et justifier pourquoi on retient certaines remarques.
Vous êtes surveillé dans votre démarche. Ouais.
En tout cas, si on demande l'avis du public, c'est pour en tenir compte, ou au moins pouvoir justifier que c'est parce que ça ne relève pas du sage. Parce que voilà, quand je vais sur les marchés, franchement, les gens me parlent de tout. Hein, c'est,
Donc il va falloir expliquer que vous ne pouvez pas tout faire non plus. Il y a des réunions aussi pour les collectivités, les élus, quoi. C'est
oui,
ça,
alors la prochaine, c'est avec les élus du territoire de Granville-Terre-et-Mar, mardi prochain, le 29 avril. aussi parce que, alors pourquoi les élus? Parce que finalement le SAGE il s'adresse directement aux collectivités via leur politique publique. Donc c'est important que eux comprennent en quoi le SAGE va les impacter dans leur commune ou dans leur comité de commune. Parce qu'on va venir impacter la politique de l'urbanisme, la gestion de l'eau potable, la gestion de l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques. Donc tout ça, ce sont déjà des politiques publiques qui sont plus ou moins engagées. Donc on ne va pas inventer des nouvelles choses, mais peut-être orienter, prioriser ce que font les collectivités. Et puis c'est aussi d'attendre... ce que eux, sur quoi ils sont inquiets.
Ouais, c'est un échange, en aussi. Fait. Voilà. Et puis comme ça, ils peuvent transmettre aussi. Donc déjà, eux, ils peuvent l'adapter dans leur politique, leur projet, et puis l'expliquer aussi au public qui viendra.
Voilà, et puis relayer l'information pour qu'on ait un public aussi large que possible.
Bah écoutez, merci beaucoup Aurélie Jouet, c'est très complet. Et donc si on veut plus d'infos et justement et participer vraiment, on a dit tous les procédés, soit sur Internet, soit en mairie, soit dans les réunions, soit sur les marchés, en mai, là, tout le mois de mai. Et puis alors donc pour se quitter, un choix musical.
Alors moi j'ai choisi la chanson Don't Worry, Be Happy.
Comme ça donne la pêche et du courage et de l'espoir. Merci beaucoup Aurélie.
Merci.